Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International sur RFI dans notre première édition, puisqu'aujourd'hui une nouvelle CAN commence, celle des matchs à élimination directe. Pas de calcul, pas d'état d'âme, seul le résultat comptera. Un lion de la Teranga l'a bien compris.
Avec tout le respect que j'ai pour l'Ouganda, si on n'est pas capable de battre l'Ouganda, je ne pense pas qu'on a vraiment notre place dans cette CAN.
Des lions toutes griffes dehors, prêts à renvoyer les cranes à la maison. Mais ces grues d'Ouganda ne se laissent pas facilement dompter, loin de là. Elles ont même été la surprise du premier tour. Les Sénégalais ont leur star et leur expérience pour eux, mais ils sont méfiants, échaudés par leur défaite face à l'Algérie. Les ébus enflamment leur île à Madagascar. Tout le monde est derrière les Barea qui tenteront l'impossible dimanche face à la RDC. Le père Pedro de l'association caritative à Kamassou vous racontera cette parenthèse enchantée sur la grande île. Et puis les écureuils face aux lions de l'Atlas. Le premier huitième de finale Maroc-Bénin mobilise toute la nation béninoise autour du match retransmis par RFI d'ici trois quarts d'heure, sur l'antenne. Un auditeur du Bénin, Thierry Collat, nous a envoyé ce proverbe et on vous le transmet. Le lion qui veut suivre l'écureuil jusqu'au sommet doit se préparer à sa chute. Chute y aura-t-il ? Franck Simon, bonjour.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Merci Franck Simon, notre camarade de France Football. Il y a aussi Xavier Barré aujourd'hui dans notre studio. Bonjour Xavier.
Bonjour Ami, oui, le vendredi c'est RFI Radio Foot, bien sûr.
Ouais. On est là. Pas de café des sports, Rémi sera là tout à l'heure pour refermer la journée, ouais. N'est-ce pas ? On vous a pas mis face à face aujourd'hui.
Oui, il préfère dormir.
Sur le terrain du foot africain, c'est autre chose. Et puis Freddy Koula, notre confrère gabonais là aussi. Bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Content d'être avec El Refé. Non, pas El Refé, Xavier Barré, le meilleur.
Oui, il n'y a pas de Refé non plus.
Il est très chef quand même, Xavier. Ouais, ça a été mon chef football
très
étranger.
Chef de la confrontation avec Rémi, mais comme je suis le voisin de Rémi, je vais mettre du côté de Rémi ce soir.
C'est pour rien.
Message spécial à un Gabonais, Alexandre Awassi, auditeur fidèle, et je lui dis bon anniversaire. Oh. Radio Foot, c'est parti.
Et là, Sarki qui s'emballe, bravo, la très très bonne passe vers Kanagay. Et la frappe de Baldé, et le but. Et le but de Keita Baldé. C'est Sadio Mané, et c'est le but.
Et c'est le but de Mané.
C'est le but de Sadio Mané. Tout le banc sénégalais se lève pour aller féliciter le buteur.
Le but. Le but signé Kepa Diatta qui a fait cette demi-volée surpuissante cette reprise.
Sénégal REC. Cette musique, ces notes sont celles des supporters qui accompagnent les lions de la Teranga et eux aussi s'entraînent avant d'aller au stade international du Caire où les Sénégalais disputeront donc ce soir un huitième de finale contre l'Ouganda. Décisif ce match pour les ambitions continentales de cette équipe qui rêve d'un trophée depuis si longtemps. Mais face à elle se dressent des grues royales, majestueuses et qui ont impressionné leurs adversaires au premier tour et ceux qui les regardaient jouer, ce qui leur donne d'ailleurs de la force, souligne le sélectionneur de ces grues, de ces cranes, le français Sébastien De Sabre, au micro d'Antoine Grenier.
Je ne vois pas pourquoi on va rentrer sur le terrain en craignant le Sénégal. Maintenant, on sait que le Sénégal, collectivement et individuellement, ça a beaucoup plus d'atouts que nous. Parce que c'est comme ça, c'est un fait. Ils ont fait la Coupe du Monde, c'est une très belle équipe avec un très bon entraîneur. Mais bon, quand vous rentrez sur le terrain, si vous respectez l'équipe, sûr. Parce que c'est une grande équipe d'Afrique, mais vous craignez pas l'équipe. On aurait craint le Congo qui est mieux placé au classement FIFA, on les aurait pas battus. On aurait craint l'Égypte, on n'aurait pas fait un bon match même si on a perdu. On aurait craint la Côte d'Ivoire en match amical, on les aurait pas battus non plus. Donc on est motivé, on respecte notre adversaire et puis on va essayer d'être à son niveau pour pouvoir les battre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes joueurs vont tout donner sur le terrain et on va jouer pleinement notre chance pour pas avoir de regrets à la fin du match.
Tout donner pour ne rien regretter. Franck Simon, l'équipe qui a surpris par son jeu, je dirais, au premier tour, c'est un collectif qui impressionne. C'est-à-dire une équipe tout entière dans son ensemble.
Oui, parce que en fait, on parle de l'équipe tout entière parce qu'on ne retient pas forcément les individualités. Il y en a quelques-unes, si vous voulez. Mais c'est une équipe d'Ouganda effectivement qui brille d'abord par ce sens du collectif, du sacrifice où on voit des joueurs offensifs qui viennent défendre, qui viennent prêter main forte à d'autres joueurs. C'est ce qui est plaisant dans cette équipe. Voilà, c'est une équipe un petit peu football total. Ça rappelle un peu les préceptes de l'Ajax des années 70, l'Ajax d'Amsterdam. Mais c'est une équipe qui pour moi a brillé aussi quand même par intermittence dans ce premier tour. Il y a eu un très beau match d'ouverture contre la RDC, ils battent la RDC. Ensuite, contre le Zimbabwe, ils se sont quand même fait pas mal chahuter. Et c'est vrai qu'ils font une très belle première demi-heure contre l'Égypte lors de la troisième journée. Bon, je rappelle qu'ils ont quand même perdu cette rencontre contre le pays organisateur
de 2 buts à 0.
Mm-hmm. Mais là, ce qui m'a inquiété, autant ils arrivaient très vite devant le but, ça jouait bien, ça combinait bien, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Et c'est ce qu'on attend d'eux dans ce match couperet.
Bien sûr.
Contre le Sénégal.
Freddy.
Le Sénégal est beaucoup plus frileux en défense que notamment que l'Égypte. On a vu une équipe joueuse, on a vu une équipe très belle et solidaire. Mais ce qui est important à retenir, c'est surtout qu'il y a de la solidarité et l'affaire des primes qui est apparue il y a quelques jours.
C'est ça, cette grève notamment. Qui a duré quelques heures, hein, mais qui notamment a fait qu'ils ne se sont pas entraînés
pas quelques heures,
un
jours,
jour
quasiment.
Oui, a un peu. Est-ce que ça peut le, je sais pas, jouer contre eux?
D'ailleurs, ce qu'a dit Desabre est intéressant, un peu comme ce qu'avait dit Clarence Seedorf lorsqu'il y a eu des problèmes de primes au Cameroun, c'est qu'ils se servent de ces problèmes de primes là pour renforcer la cohésion de groupe. Ils considèrent un peu comme une injustice le fait qu'ils aient gagné et passé en huitième de finale, même si l'arrangement au départ était clair, mais ils se servent de ça. De Sabre a dit ils se servent de ça pour booster ses troupes, et ses troupes sont d'autant plus boostées.
On utilise la chose dans l'autre sens.
Que c'est un moment historique pour leur pays. Ils savent que le peuple est derrière eux. C'est ça qui est intéressant, c'est que eux, ils savent qu'ils sont en position de force, le peuple est derrière, et ils ont fait une performance remarquable. Il n'y a pas de raison qu'avec leur solidarité qu'ils ont montré dès le début, avec un peu de technicité, parce que n'oublions pas qu'ils ont quand même un gardien remarquable derrière, Onyango, qui leur apporte une certaine sérénité, et c'est lui le capitaine de l'équipe, c'est lui qui impulse aussi la dynamique de groupe. Et puis devant, ils ont quand même un trio extraordinaire, Okui, Kadou et Mia, c'est des sacrés footballeurs quand ils sont
Kadou,
en réussite.
Kadou jouait pas, voilà. Freddy, le dernier match, c'était pas lui, ouais,
il a pas joué le dernier, mais
ils ont au moins quatre joueurs offensifs.
Il sera là, Kadou, c'est la grande chance qu'ils ont d'ailleurs, je pense, sur ce match-là. Ils ont retrouvé leur buteur et qui leur a mis deux buts dans cette canne-là. Ils vont peut-être essayer de poser des problèmes à une défense du Sénégal.
Souviens-toi qu'ils n'ont pas marqué contre l'Égypte. Ils se procurent quand même une bonne demi-douzaine d'occasions nettes.
Mais personne n'a marqué contre l'Égypte.
C'est ça qui est inquiétant.
Défensivement, l'Égypte, c'est le jour et la nuit avec le Sénégal.
Tu peux pas te contenter de ce constat-là, de dire bah ouais, personne n'a marqué contre eux. Là, c'est le Sénégal. Si tu veux passer, parce que c'est un match couperet, tu peux pas calculer en disant bon bah on a fait le boulot avant, on a mis 4 points avant et non.
Ah, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ils ont marqué 2 buts contre le Congo. Personne ne les attendait là. C'est pas pour autant qu'ils vont pas tenter de mettre des buts. Ce qui est sûr, c'est que les occasions ils s'en créent.
C'est manque d'efficacité au dernier match.
Au contraire, j'ai été comme vous, peut-être comme Xav. C'est une équipe qui m'a plu. J'attendais au moins un représentant d'Afrique de l'Est qui fasse quelque chose. L'Ouganda y est. Félicitations à eux. Maintenant, si tu veux passer un cap supérieur, faut montrer d'autres choses, notamment dans l'efficacité.
Xavier. Oui, l'Ouganda y est avec un entraîneur français. Il faut le rappeler effectivement, puisque c'est un pays anglophone, donc. C'est assez pas évident pour un entraîneur français de s'imposer dans un pays anglophone, et Sébastien Desabre l'a très bien fait.
On a Sébastien Minier au Kenya aussi.
T'as eu Claude Leroy avec le Ghana.
Ça arrive.
Depuis 20 ans, ça arrive plus souvent. T'en as connu un qui est paix à son âme, qui est décédé. Raymond Zarpagnan était sur le banc de la Sierra Leone en 94.
Troussier, l'Afrique du Sud, et
le Nigeria, etc. Ça arrive maintenant de plus en plus souvent.
Ça arrive, et donc il a fait un travail vraiment remarquable, parce que cette équipe d'Ouganda, moi j'avoue, en plus elle était dans un groupe éliminatoire aussi très anglophone, puisqu'il y avait l'Égypte et la Tanzanie, je crois.
Non, il n'y a pas l'Égypte.
Ils n'étaient pas avec l'Égypte, non? Alors,
Non, il y avait le Zimbabwe.
Le Zimbabwe, pardon. Ils étaient avec le. Voilà. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés dans ce. C'était une équipe qu'on n'avait pas trop vue, nous, dans l'espace francophone. Et ça a été une vraie découverte, moi, dès le premier match.
Mais déjà en 2017, Franck, je me souviens, la CAN précédente, on en parlait déjà.
Ils ont joué, déjà, historiquement, ils ont joué 3 fois contre le Sénégal. Le Sénégal n'en a gagné qu'une seule fois, c'est en 2017, le 1-0 à Dakar. Et les matchs, ils ont toujours été serrés. Le style.
Très accroché.
Le style ougandais pose d'énormes problèmes au Sénégal, qui, quand elle se retrouve face à une équipe qui fait du jeu, et qui joue beaucoup sur la verticalité, a beaucoup de problèmes.
Oui, là on voit une équipe qui a vraiment, et Franck et Freddy l'ont très bien expliqué, qui a vraiment un fond de jeu, qui a un état d'esprit, il y a un collectif, presque ce qui manque un peu au Sénégal en fait. Au Sénégal, il y a les individualités et il n'y a pas toujours ce collectif. Il est même parfois défaillant. Alors que là, c'est la force de l'Ouganda. Alors, effectivement, il y a, et Franck le soulignait, un manque de réalisme parce qu'il y a un petit peu de manque de talent. S'il y avait des joueurs ougandais aussi forts que ceux-là, bah, ils seraient pas
en... Si tout le monde était au niveau de Mia, voilà, peut-être.
Ouais. Ils seraient pas à Gorica en Slovénie, à Simba en Tanzanie, au Churchill Brothers en Inde. Ils seraient dans d'autres clubs.
Faut relativiser quand même, Xavier, parce que tu vois, Simba, c'est quand même aujourd'hui, c'est un des clubs qui brille en Ligue des Champions d'Afrique. Tu vois, ils ont quand même conservé leur titre en Tanzanie. Tu as un entraîneur européen qui a bien bossé, qui est un Belge, Patrick Ossems, qu'on connaît en France notamment. Des fois, il vaut mieux être, tu sais, en Afrique, dans sa sous-région, en Afrique de l'Est pour un Ougandais ou au Kenya,
dans des clubs de Ligue 1 ou Ligue 2, que
d'être paumé au fin fond de, tu vois, du championnat indien ils sont super compétitifs. À la limite, j'aurais préféré que tu me dises, bah voilà, t'as deux joueurs dans ce 11 type, Walou Simbi, le latéral gauche, et Hassan Ouassoua, qui n'ont pas de club. Ça peut être problématique.
Depuis quelques mois.
Ouais, mais ça compte, tu vois.
C'est sûr. Mais ils risquent d'en retrouver s'ils continuent à faire ces bonnes performances. Mais ce que je voulais dire, c'est que, voilà, Freddy nous rappelait le trio d'attaque. Okui qui joue à Simba, Mia qui joue à Gorica en Slovénie, et Kadou à Kampala City. Du côté sénégalais, vous avez en attaque Sadio Mané qui est champion d'Europe avec Liverpool, Mbaye Niang qui joue avec le Stade Rennais qui a gagné la Coupe de France, et Keita Baldé qui joue en Italie. Donc voilà, là-dessus, il y a pas photo. Et le Sénégal est largement au-dessus. Oui. Maintenant, le foot est un sport collectif et on le répète assez souvent dans cette émission, on s'en réjouit. Quand il y a un vrai état d'esprit collectif, et comme c'est le cas dans cette équipe d'Ouganda, et ben du coup, ça rééquilibre, ça rebat les cartes. Et moi, je suis très très excité de voir
Ougandais,
ce match.
Ils aiment ce genre de challenge. Chaque fois qu'ils jouent contre des équipes qui sont entre guillemets beaucoup plus fortes qu'elles, avec des individualités en face beaucoup plus fortes, ben souvent ils sortent de grands matchs.
Et ben justement, les Sénégalais, évidemment, avant même qu'ils n'arrivent en Égypte, on leur avait mis cette étiquette de favori. C'est leur passé de mondialiste. C'est l'équipe qui est la mieux classée au classement FIFA pour ce qui est du continent africain. Mais cette étiquette, ils voudraient bien un peu l'oublier. Écoutons le milieu de terrain d'Everton, Idrissa Gueye, assez prudent au micro d'Olivier Pron.
Surtout, ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y a pas de match facile. Comme tout le monde le disait au début de la compétition, qu'on était favori et que depuis qu'on a perdu contre l'Algérie, ça a un peu changé la donne. On sait que voilà, on a une équipe qui est capable d'aller jusqu'au bout, qui est capable de produire du bon jeu, mais à un moment donné aussi de laisser ce beau jeu de côté et se sacrifier pour gagner les matchs. On a beaucoup plus de maturité dans notre équipe. C'est vrai qu'on aborde les matchs beaucoup plus sereinement parce que voilà, maintenant on a l'expérience et qu'on a bien grandi. Après, faut pas oublier qu'il y a d'autres joueurs aussi qui en sont à leur première canne et voilà, c'est à nous maintenant de les aider, de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise.
Et oui, c'est l'heure de se sacrifier pour gagner les matchs. Franck Simon, est-ce que ce Sénégal, qui a donc de grands joueurs, et Xavier le rappelait, on en connaît évidemment certains, est-ce que cette expérience aussi qu'ils ont n'a pas été un peu, leur peut-être un peu assurance, s'est frotté eh bien, à l'Algérie et à ce match perdu? Alors évidemment, on sait que c'était pas un match décisif, que c'était aussi le deuxième de la compétition. Mais est-ce que ça leur a pas, ça les a pas piqué dans leur orgueil, peut-être les Sénégalais, si et rendu prudents?
Annie, si c'est le cas, tant mieux. Ce qui est intéressant dans cette confrontation qui arrive en huitième, premier élément, le Sénégal a battu deux des quatre représentants d'Afrique de l'Est avant.
Oui.
La Tanzanie et le Kenya. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du style, même si c'est pas un copier-coller, c'est pas une copie carbone, hein, chacune des équipes a ses spécificités, ça aide d'avoir déjà ce vécu. Deuxième chose, le Sénégal a été sorti en quart de finale lors de la précédente phase finale au Gabon.
Sans perdre au tir au but,
ils étaient arrivés aussi en roulant les épaules. Aujourd'hui, on l'a bien compris dans le discours de Gana Gueye, il est plus question de rouler les épaules. Je pense qu'à la limite, ça les arrange. Ils sont favoris naturellement, mais pour eux, peut-être se dire on l'aime et peut-être on l'est un petit peu moins. Et en même temps, ils se méfient beaucoup de cette équipe qui a pas mal secoué l'Égypte lors du dernier match, parce qu'ils ont beau perdre, effectivement, ils ont été ils ont été fort intéressants. Ils ont vu que c'est une équipe qui jouera de toute façon absolument décomplexé.
Voilà, sans pression, Xavier.
Oui, mais l'objectif du Sénégal, c'était pas de terminer en tête de la poule, c'est d'aller en finale.
C'est de la gagner.
C'est plus que d'aller en finale maintenant.
Pour la gagner, faut aller en finale.
Toi, ils le disent pas, mais on sait très bien, quoi. C'est
bien
évident.
Sûr. Donc, il peut y avoir un accrochage au passage. Bon, la défaite contre le Sénégal, elle a été contre l'Algérie, elle a été aussi concédée avec trois absents importants, puisqu'il manquait
Idrissa Gueye,
Sarr et Sané.
Mané était revenu.
Non, Mané était revenu. Il était absent du premier match, Mané.
Ah, il était revenu.
Il était revenu. Mais c'était son début dans la compétition. Donc du coup, on se retrouve avec un Sénégal qui en fait n'a pratiquement jamais eu son équipe type depuis le coup d'envoi de cette compétition. Donc ils ont tourné sur les matchs de poule. L'objectif c'était de sortir. Bon, ils terminent deuxième derrière l'Algérie. Ça change pas grand chose. L'objectif du Sénégal, c'est d'être en finale et de la gagner. Donc moi, je crois que cette petite épreuve, ces petits ajustements, justement, ça renforce leur détermination et ça évite le péché d'orgueil. Ça évite cette assurance, cette arrogance.
C'est ce que je disais à l'instant. C'est clairement
que ça peut les aider.
Oui, ça ne peut qu'aider effectivement à les piquer pour la suite, parce que toutes les équipes le disent, et c'est pas propre à la Coupe d'Afrique, hein. Vous le verriez en Coupe du Monde, Copa América, à partir des matchs de deuxième tour, c'est un autre tournoi. Mm-hmm. Ça a plus rien à voir avec la phase de championnat, quoi.
Mm-hmm. Le Sénégal a surtout envie de se séparer de cette étiquette d'éternel loser qui a de l'ambition au départ, dont on place en position de favori et qui au final toujours déçoit. Et là, ils en sont conscients. C'est ça qui est intéressant, c'est que à la fois le staff, les joueurs et même les anciens footballeurs, il y en a quelques-uns, Eladji Diouf, que j'ai vu Khalifa Koulibaly, comment il s'appelle,
Kalilou Koulibaly.
Kalilou Koulibaly, ouais, non pas Koulibaly, il s'appelle comment, le gaucher là,
Kalilou
Fadiga, il est présent également.
Les anciens, donc.
Ils sont tous en mode communion autour, et quelques phrases qui ressortent sont celles de dire que la critique, c'est très bien, mais au fond, il faut désormais avoir cette union autour de cette équipe parce qu'il faut insuffler une dynamique positive. Tout le monde est dans cette lancée, quoi.
C'est ce que dit Freddy, est intéressant sur la présence des anciens. Vous savez que ça a présidé à la victoire du Cameroun il y a 2 ans et demi. Tous ces anciens qui étaient à l'hôtel avec eux, on pourrait croire qu'ils étaient là pour essayer d'accrocher quelque chose. Mais ils étaient les grands frères. En réalité, aujourd'hui, vous retrouvez pas mal d'entre eux dans l'encadrement technique des Lions Indomptables. Ça ne peut qu'aider. Le truc qu'il faut surtout pas faire, et on en parlait souvent avec Habib Bey ici, c'est pas comparer les générations. Faut surtout ne pas comparer les destins. Ouais. Ceux de 2002 ont fait quelque chose. Ceux de 2019 veulent écrire leur histoire. Ça sert à rien de comparer.
Je suis assez d'accord avec la remarque de Freddy et de Franck, mais est-ce que ça fait pas trop de blabla, etc., autour d'Aliou Cissé? Parce que du coup, les anciens, c'est toute la génération d'Aliou Cissé.
Ah ouais. Voilà. Ces anciens, donc, t'as raison,
c'est ces anciens coéquipiers. Ils étaient ensemble
Tous ne sont pas forcément d'accord avec la méthode Aliou Cissé. Mais aujourd'hui, la dynamique, elle est un peu différente. Parce que même ceux qui sont virulents et critiquards, comme Eladji Diouf notamment, sont en mode, il faut qu'on soit tous derrière la nation et derrière cette équipe-là.
Parce que c'est de la façade, quand même.
Ouais, parce que j'ai l'impression quand même qu'il l'est vachement critiqué et vachement discuté.
Mais c'est peut-être.
Et donc, du coup.
Là, pour l'instant, c'est l'huitième de finale et comme dit Freddy, pour l'instant, c'est union autour et on verra après.
Union sacrée,
si ça passe pas, c'est sûr que là, l'union sacrée, elle sera vite fracturée.
Rendez-vous donc sur RFI dès 20h47 en heure de Paris, 18h45 temps universel, avec Antoine Grenier, avec Olivier Pron, en direct du stade international du Caire. Nous, on continue, on va faire un petit tour sur la Grande Île. Le délire ces derniers temps dans l'île de Madagascar, il leur faudra encore 48 heures de patience, de rêve aussi pour les Baréas et tous les Malgaches. Pourtant débutant en Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe nationale de Madagascar a surpris et surtout comblé ses supporters que vous entendez. C'était le soir où ils étaient non seulement qualifiés mais premiers de leur groupe. Une île en fête donc depuis leur qualification et qui attend le 8e de finale à jouer contre la RDC dimanche soir avec impatience. Une parenthèse enchantée que l'épopée des Baréas, comme en témoigne le père Pedro, cet Argentin qui vit depuis un demi-siècle à Madagascar où il a ouvert les villages d'Akamasu pour sortir des milliers de gens de la misère, a le cœur qui vibre pour les Baréas, un prêtre et un fan de foot, de passage en France pour récolter des fonds pour ces villages et qui garde un œil donc sur l'équipe de football. Il est au micro de Geneviève Delru, notre camarade du magazine Religion du Monde. Elle l'a rencontré ce matin.
Et Baréa, la sélection malgache, a fait un exploit extraordinaire. Pour la première fois, le peuple malgache s'est senti soudé, uni, fier d'être peuple. Et voilà, c'est l'espoir, c'est à travers l'espoir qu'ils ont ressenti cette unité. Ce que les politiciens n'ont pas su le faire, ils l'ont fait, le joueur de foot de Madagascar. Alors voilà, dimanche, Je souhaite que ce peuple puisse continuer dans cette joie et que la sélection, les Baria, puisse gagner au Congo, à nos frères des Congo. Parce que dans un match, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de force mentale. Il faut courir pour gagner un match. J'espère que les Baria donneront une autre joie au peuple malagasy. Allez, Fabaria! Allez, Fabaria! Allez, Fabaria, comme ils disent toutes les malagasy.
Ils sont venus, les joueurs de foot. Ils sont venus à Kamassou. C'était à la Pentecôte, c'est ça?
Oui, ils sont venus avant de partir pour l'Égypte. Ils sont venus demander la bénédiction dans notre stade parce qu'ils disent, vous ici, vous avez lutté avec vos jeunes, vos enfants. Et nous voulons aussi lutter pour la fierté de notre peuple malagasy, pour donner une place à Madagascar dans les sports, dans le football. Eh bien, ils ont déjà réussi ce qu'ils ont fait déjà maintenant. Ils ont donné la joie, la fierté au peuple malagasy.
Le foot à Madagascar, c'est formateur, c'est, ça va au-delà de, du simple jeu, au-delà du simple sport. C'est un rôle social?
Bien sûr, tout sport, et surtout le football, aussi le rugby, c'est une école de vie. Les sports donnent la force. Dans les sports, vous devez vous dépasser. Dans la vie aussi, vous devez vous dépasser. Dans la vie aussi, vous devez des efforts, vous devez travailler pour gagner votre vie dignement. Alors, dans les sports, vous faites la même chose. Et surtout, le foot, c'est populaire, très populaire à Madagascar. Alors, à partir de maintenant, je pense que les jeunes vont aimer davantage les sports et le football.
Grâce à la CAN.
Grâce à la CAN. Et je pense, dans toute l'Afrique. J'ai béni toutes les équipes, et tous les, en tant que prêtre, mais bien sûr avec une petite priorité pour les Baria, parce que c'est là où je travaille depuis 49 ans.
Dodol, la gloire des Baria. Alors, une aventure sportive sur cette île qui va au-delà donc du terrain et des joueurs. Et d'ailleurs, profitant de ce rare moment d'union nationale, le président de la République, Ange Radzoel, a décidé de profiter de l'engouement pour proposer à qui le veut et surtout qui le peut financièrement, eh bien, un voyage pour assister au match à Alexandrie. Et il a fait affréter un avion et le plus gros qui existe, un Airbus A380 qui emmènera 480 personnes au stade pour ce match historique entre Madagascar et la RDC. C'est une jolie parenthèse que nous raconte le père Pedro, Freddy.
Non, je suis ému parce que moi, ça me rappelle une époque, j'étais très jeune aussi, quand mon pays, le Gabon, s'était qualifié en 94 pour la première fois à une CAN, même si ça n'a pas été top. L'année d'après, en 96, ils étaient qualifiés pour la première fois en quart de finale. C'est un peu ce que vivent là les Malgaches, c'est que indépendamment de ce qu'il y a comme contexte politique, et là, c'est ultra important de savoir qu'il y a énormément de gens qui sont frustrés juste après une élection présidentielle comme celle-là, où il y a une partie des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, où il y a beaucoup de minorités qui se sentent lésées, mais quand il y a ce match de leur équipe nationale, quand la Madagascar joue comme ça, tout le monde est scotché devant les écrans. C'est surtout que ce ne sont pas les écrans individualisés, c'est l'effet de masse, des gens qui sont entassés chez des boutiquiers, chez des gens qui ont de la télé, et parce qu'il y en a qui n'en ont pas, qui sont en famille en train de regarder à 30, 40, 50 personnes devant un seul écran, en train de hurler pour des joueurs qu'ils connaissent par cœur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui est inexplicable et qui va vraiment au-delà de l'aspect footballistique, du jeu simple, c'est la symbolique de la sociologie qui prend tout son essence.
On avait appelé un auditeur récemment, Vacha, qui nous parlait aussi de cette passion qui s'était emparée de l'île, et c'est vrai que ça se passe dans beaucoup de nations, mais là, l'aventure est tellement belle, Xavier, que du coup, ça crée une union autour d'un match.
Ah, bien sûr, déjà la qualification, c'était un exploit inattendu.
Il y avait déjà eu une belle fête.
Exactement, ils avaient terminé deuxième de leur poule derrière le Sénégal, et devant la Guinée équatoriale qui a organisé deux fois la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations récemment, et le Soudan.
Donc
une fois avec le Gabon, une fois toute seule. Donc du coup, c'était déjà une belle surprise de les voir là. Mais qu'ils sortent de la poule, que ce soit le seul d'ailleurs des nouveaux participants à sortir, puisque le Burundi, lui, n'a pas eu cette chance-là, et Mauritanie non plus. Donc du coup, ça renforce encore l'effet nouveauté, l'effet magique de cette aventure. Et puis après, quand on met en pourra peut-être en reparler quand on voit la composition de cette équipe avec quelques joueurs malgaches, beaucoup qui sont venus en France, mais aussi des joueurs de France qui sont partis jouer pour Madagascar. C'est assez incroyable l'amalgame qu'a réussi à faire Nicolas Dupuis avec tous ces joueurs.
Franck,
c'est par là qu'il faut commencer en fait. C'est par la composition. Mm-hmm. Voilà. Autant pour le Gabon, puisque Freddy faisait allusion à cette CAN 94 dont je me souviens bien. J'étais auprès des joueurs d'Azengo à l'époque. Ça frémissait, si vous voulez, depuis quelques années. Quand Azengo se qualifie en 94, vous reniflez que le Gabon va être bientôt à la Coupe d'Afrique. On les a vus, ils étaient venus, mm-hmm. moi je les avais suivis pendant plusieurs années. 94, c'est logique, ça arrive.
Hein. Vous les sentez monter.
Voilà, ils ont fait le taf, quoi. Et ben pour Madagascar, de même, quand vous regardez ce qui s'est passé ces dernières années, vous sentez que ils peuvent ne pas être loin. Et il commence avec Nicolas Dupuis, parce que lui, il était sur le banc au tout début des éliminatoires. Je rappelle, ça a commencé en juin 2017. Mm-hmm. Il débute par une victoire au Soudan. Entre-temps, la CAF, un mois après, décide de changer le format. Passe à 24. Mm-hmm. Et je me souviens, j'avais échangé avec Dupuis, et il me dit, bah tu vois là, ça y est. 20 à 24, on aura peut-être notre chance. Deux mois après, ils jouent le Sénégal à Tana et ils font ce match nul incroyable, superbe. Et bah on se dit bah ouais, ils sont pas là par hasard. Ils sont sortis, Xavier le rappelait, du tour d'avant, du tour des crémages. Ils sont présents, ils vont aller au bout. Ils l'ont fait, ils battent deux fois la Guinée équatoriale et l'aventure est lancée. Non, ils sont vraiment pas là par hasard. Maintenant l'inquiétude, est-ce que t'es capable de passer le cut, mm-hmm. alors que t'as réalisé tellement un super match contre le Nigeria.
Surtout qu'il y aura pas Ilaï Maritra qui est absent, ouais. et qui a fait un énorme boulot. Et surtout au milieu de terrain, il est très important.
Le match sera retransmis sur l'antenne de RFI dimanche à partir de 16h en temps universel. Un coup d'envoi, en tout cas, ce 16h temps universel. Et ça sera avec Hugo Moissonnier et Olivier Pron aux commentaires en direct d'Alexandrie. Des écureuils qui chantent lorsqu'ils arrivent au stade, des écureuils qui ont aussi pris de la potion magique sous des airs de gentil animal qui range ses noisettes. Eh bien, ces footballeurs, ces écureuils béninois ont mis tous leurs efforts dans cette qualification historique pour leur 4e participation à une phase finale de CAN. Les voilà pour la première fois prêts à disputer un match à élimination directe. Tout le pays est prêt à encourager cette équipe. Écoutez le reportage du correspondant de RFI, Jean-Luc Aplogan, à Cotonou.
Des écrans géants sont installés un peu partout. Les bars sont déjà au rythme de ce 8e de finale avec des animations de circonstance. Depuis cette qualification historique, les Béninois se mettent à rêver, même si la solide équipe du Maroc a le profil d'un sérieux candidat au titre. Pronostic de supporters béninois.
Le Maroc va perdre. Allez-y les écureuils!
Les écureuils feront de leur mieux. On peut faire 0-0 et puis au coup de tir au but, le Bénin va remporter. Les mannes de nos ancêtres seront avec nous.
Fort des résultats du premier tour, beaucoup, comme le ministre d'État Abdoulaye Biatiané, pensent que le Bénin n'est plus un petit poussé.
Vous savez, le football est ainsi fait que sur un match, n'importe qui peut battre n'importe qui. C'est possible que notre équipe gagne 1-0 pour le Bénin. Sinon, victoire au pénalty.
À côté de cet optimisme, des supporters béninois prudents reconnaissent que ce sera, je cite, un match très chaud. Petit souci pour les fonctionnaires, le match commence 1h30 avant la sortie. En plus, les postes téléviseurs sont interdits dans les bureaux. Pour vivre le match, il leur reste deux possibilités. Écouter le match à la radio ou partir avant l'heure de fermeture à leur risque et péril. Le gouvernement ne sera pas trop regardant, nous a soufflé un ministre.
Eh oui, on aura tous envie là-bas au pays d'encourager l'équipe nationale du Bénin. C'est une nouvelle ère dans ce football du Bénin. Franck, qui là tout à l'heure on parlait d'une équipe qu'on voit venir finalement, qu'on voit qu'à un moment elle va accéder à la CAN. C'est un peu pareil pour le Bénin.
Oui, parce qu'en fait la transition elle a été opérée il y a maintenant un petit peu moins d'un an avec l'arrivée de Mathurin de Chacus à la tête de la fédération béninoise. et l'arrivée aussi sur le banc, le retour plus exactement de Michel Dussuyer, qui est quelqu'un qui travaille extrêmement bien et qui a présidé lui aussi à cette super qualification. Alors il avait promis de la sueur, il avait promis des larmes, mais il avait aussi promis qu'il se passerait des choses. Et voilà, ça a débouché sur cette qualification. Ils y sont maintenant. Bon, ils savent que la tâche va être compliquée, surtout sans Mounier, mais qui est suspendu. Mais
Steve Mounier est impuni et qui ne peut pas disputer le match.
Effectivement, il y a une nouvelle ère qui a déjà commencé, mais en fait, peut-être un petit peu plus en arrière, il y a déjà des choses. Vous avez reçu ici Mouniru Daouda qui organise le TIC 2F, le tournoi de jeunes. En fait, il y a un travail qui se fait là-bas.
En Mika parallèle, Poté, un peu justement, ouais, hein, qui essayait de compenser.
Il y a Mika Poté et la PJ, son académie qui a déjà quelques joueurs qui sont partis en Europe. Donc ça, c'est vraiment parti pour, je pense, des générations intéressantes là-bas.
Et d'ailleurs, ce travail de fond à tous les niveaux, eh bien, l'ancien international béninois, Jimmy Jovi Boko, nous l'avait raconté récemment.
Ces dernières années, le football béninois a été plutôt chahuté. Quand on a dans un pays, on n'a pas de championnat de Ligue 1 depuis plusieurs années, bah, c'est difficile de penser l'avenir. Ces joueurs qui ont accepté, malgré cette situation compliquée, de porter les maillots de l'équipe nationale, sont à féliciter, sont vraiment à remercier, parce que, encore une fois, c'était pas facile. Aujourd'hui, avec l'entraîneur, mais aussi avec le nouveau président Mathurin de Chaclus et l'État, parce que le ministère met tout ce qu'il faut pour réussir, et ça aussi, c'est à souligner. C'est-à-dire que on sent toutes les composantes nécessaires à la réussite qui jouent leur rôle. Et là, du coup, on commence à avoir des résultats. Il ne faut pas s'enflammer, mais on commence à avoir des résultats.
C'est une politique volontariste et effectivement, on se retrouve avec cette équipe qualifiée pour le huitième de finale, Freddy.
Mais qualifiée aussi, mais pour qui les stats ne parlent pas en faveur, parce que c'est depuis le Mozambique en 2012, c'est la seule équipe à avoir enchaîné 12 matchs en Coupe d'Afrique des Nations sans en gagner aucun.
Ils ont marqué un point l'autre jour avec ce match nul, ouais. Et ils trouvaient ça très important, mais effectivement, il n'y a jamais eu de victoire encore du Bénin en Coupe d'Afrique des Nations.
C'est 4 matchs nuls, 8 défaites en Coupe d'Afrique, mais c'est déjà très bien. C'est pourquoi c'est d'autant plus intéressant qu'ils se soient retrouvés en 8e de finale pour la première fois au second tour. Ça donne une dynamique différente de ce qu'on a toujours vu du Bénin, même si on la voit souvent en Cannes, elle a souvent été loser. Et puis c'est une génération avec Cessegnon, avec Poté, qui vont peut-être partir dans quelques années. C'est peut-être un bel héritage qu'ils vont laisser là, avec un bon souvenir finalement au deuxième tour, même si ça va être extrêmement difficile face à une équipe du Maroc qu'ils ont croisé 5 fois. Ils ont pris à chaque fois des raclés. 92, ils avaient pris 1-0, mais entre temps ils ont pris 15 buts ils n'en ont marqué que 2 contre le Maroc.
Ça a souvent été des matchs,
que les stats ne comptent pas, non, mais c'est pour dire que généralement le Maroc n'a pas beaucoup réussi au Bénin,
ça c'est vrai, mais convoquer des statistiques d'il y a 20, on pourrait le faire, je suis d'accord.
La
dernière fois, c'est 2014, ils avaient pris 6-1, il y avait déjà Poté, il y avait déjà Cessegnon. Non, c'est pour dire.
C'est plus la même équipe, tu vois.
Ouais, ce n'est pas la même équipe, mais du point de vue de la
sélection. Rémine Gonneau,
c'est un vaste Maroc pour le Bénin, quand même.
Un petit mot.
Non, c'est vrai que c'est une aventure incroyable pour le Bénin, mais c'est quand même un peu une équipe qui est arrivée là miraculeusement. Il faut rappeler 3 matchs nuls, dont un contre le Ghana qui se retrouve à 10, le premier match. Ils arrachent un nul
c'est
de 2.
Ça, c'est pas un résultat miraculeux, en revanche.
Ils avaient dominé le match. Même avant que Boyd ne sorte, ils avaient dominé le match.
Quoi. Voilà. Le Ghana avait quand même un potentiel supérieur. Et par contre, là où ils sont pénalisés, c'est l'absence de Steve Mounier. Parce que là, pour le coup, le deuxième jaune qui le prive de ce 8e de finale est extrêmement sévère. Et franchement, c'est sûrement très dur pour lui d'être sur le banc aujourd'hui.
Comme ça avait été pour Poté lors de la dernière journée des éliminatoires contre le Togo. Mmh.
Écoutons en tout cas cette fédération qui travaille et qui essaye de mettre ce football au niveau des défis du continent. Écoutons leur message. C'est un clip publié par la Fédération béninoise de football. Leur message, c'est ensemble pour un nouveau départ du football béninois.
Sourire parce que les rêves de nos proches en valent la peine. Trouver la force et le courage parce que c'est le plus bel héritage qu'on puisse leur transmettre. Persévérer parce que le vainqueur est celui qui ne baisse pas les bras. Faisons face à nos peurs, n'abandonnons pas et debout nous resterons. Plus forts nous deviendrons. Sortons de notre zone de confort et entrons dans la zone d'épreuve. Au plus profond de nous se trouve une force. Cette résilience te rend fier notre nation. Nous sommes le football béninois, nous sommes les écureuils, nous sommes le Bénin. Une nation, un rêve.
Ouais, mais sauf que ils sont sautés.
Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Nous nous retrouverons avec les noms des deux premiers qualifiés pour les quarts de finale. Eh bien, dès 21h10 en temps universel, 23h10 heure de Paris. Nous nous retrouverons aussi en Facebook Live. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi que Pierre Guérin. Laurent Salerno était à la réalisation. Et nous passons le relais, eh bien, à nos envoyés spéciaux qui vont vous faire suivre ce match. Christophe Jousset, Cédric de Oliveira et Joseph-Antoine Bell au stade Al-Salam du Caire. Mais pour l'instant, c'est Thomas de Saint-Lagier qui est à mes côtés. Bonjour Thomas.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde. On va filer effectivement tout de suite au stade Al-Salam. Avant, petit indique.
En direct de la Coupe d'Afrique des Nations Total, Égypte 2019.
Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Les premiers frissons du Grand 8, deux huitièmes de finale de la CAN à suivre en direct intégral sur RFI aujourd'hui. Ouganda-Sénégal, ce sera tout à l'heure. Mais d'abord, le stade Al-Salam, Maroc-Bénin, c'est tout de suite. Et c'est avec notre triplette de l'après-midi, Christophe Jousset, Cédric de Oliveira, Joseph-Antoine Bell. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour à tous, bonjour messieurs.
Bonjour à tous.
C'est parti pour les choses sérieuses ici au stade Al-Salam qui est encore à moitié baigné par ce chaud soleil du Caire. Le début des huitièmes de finale, effectivement, et pour donner un petit coup de chaud tout de suite, on va vous donner l'info principale de cet avant-match. C'est le forfait de Mehdi Benatia qui est blessé, Cédric.
Oui, Mehdi Benatia qui déjà n'avait pas joué contre l'Afrique du Sud le dernier match du premier tour. On pensait qu'il avait été ménagé par Hervé Renard, et bien visiblement il est blessé. Mehdi Benatia, il ne s'est même pas échauffé, même pas entraîné. C'est le seul joueur marocain à être resté sur le banc de touche. Voilà, une absence de taille donc pour le Maroc. Mehdi Benatia sera remplacé par Da Costa.
Avant d'en venir à l'essentiel, à savoir les équipes du Maroc, du Bénin, leur parcours, leurs espoirs, les compositions en détail, on va s'attarder tout de suite, Joe, sur les sélectionneurs. Écoutez, deux minutes, les deux sélectionneurs, Hervé Renard, Michel Dussuyer, français tous les deux, évidemment. C'est pas la première fois qu'ils sont face à face sur des bancs opposés. Hein, ouais. Ils se sont déjà rencontrés. Vous vous souvenez ?
Oui, absolument.
C'était
Maroc-Côte d'Ivoire.
Eh bien, interro surprise, réussi,
parfait. Bravo.
Maroc-Côte d'Ivoire avec Michel Dussuyer sur le banc de la Côte d'Ivoire à la CAN 2017.
Ouais.
Et Cédric, ce score de...
Eh bien, de 1 à 0 pour le Maroc. Voilà, ça s'était mal terminé pour la Côte d'Ivoire qui n'avait, eh bien, du coup, qui avait été éliminée de cette phase de poule. Et d'ailleurs, ça avait entraîné le limogeage de Michel Dussuyer qui avait donc dû quitter les éléphants. Dernière opposition. Voilà, mauvais souvenir en tout cas pour l'actuel coach du Bénin.
Ouais. Alors hier en conférence de presse, Hervé Renard puis Michel Dussuyer se sont présentés dans la même salle, mais à peu près une heure d'intervalle. Ils ont parlé l'un de l'autre, de leurs équipes aussi. On a mixé, on a croisé les interviews. Écoutez, Dussuyer d'abord, Hervé Renard.
Cette équipe du Bénin, je la connais assez bien.
Cette équipe du Maroc, je la connais bien.
J'ai la chance de connaître très très bien Michel Dussuyer. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune et que je suis arrivé au centre de formation de Cannes, j'avais 16 ans, il était joueur professionnel.
Oui Hervé, je l'ai vu arriver à Cannes et on a des rapports qui dépassent ceux d'entraîneur à entraîneur aussi, quoi. Il y a des rapports humains, quoi. La personnalité d'un entraîneur, ça rejaillit toujours un peu sur son groupe.
C'est quelqu'un, à l'image de son équipe, de rigoureux, de travailleur. Il fait pas beaucoup de bruit, mais qui travaille très très bien. Et son équipe, elle a son image, attention, méfiance.
Et je suis très heureux de son parcours, de là où il est aujourd'hui, et de ce qu'il fait pour le football africain, et du travail exceptionnel qu'il fait partout où il passe, quoi.
Voilà, ils se sont découverts à Cannes et on les retrouve à la
c'est
Cannes.
C'est le grand amour. Hein.
De voilà, Cannes en Cannes.
De Cannes à Cannes. Et bien maintenant, ils ont pris l'habitude de la Cannes.
Alors, Joseph-Antoine Bell, c'est pas seulement une opposition entre deux sélectionneurs. Loin de là, c'est bien plus que ça. C'est un match historique pour le Bénin. Le Bénin qui a fait un parcours qu'on peut rappeler pour, disons, raviver un peu les souvenirs qui remontent à quelques jours d'un premier tour. Bon, réussi puisqu'ils sont qualifiés.
Bah, réussi, effectivement, puisque c'est une première historique pour le Bénin. Le Bénin qui a franchi pour la première fois une phase de poule. On rappelle donc 3 matchs nuls. Le premier, c'était face au Ghana, 2-2. Ça avait même très bien commencé ce match, puisque Michael Poté avait ouvert le score très rapidement contre les Black Stars. Il avait marqué dès la 2e minute de jeu. Ça a été plus compliqué ensuite. Les Ghanéens sont revenus grâce au frère Ayou, grâce, on va le dire, un peu à l'exclusion de John Boy. Et bien dans cette rencontre, les Béninois ont repris le contrôle de cette partie, ont réussi à aller arracher ce match nul 2-2, un doublé pour Michael Poté. Ça avait donc bien démarré pour le Bénin, qui espérait aller chercher la première victoire dans une CAN de son histoire. Derrière, on a vu un match assez ennuyeux face à la Guinée-Bissau, 0-0. Voilà, il n'y a pas grand chose à retirer de cette rencontre. Et puis c'était mardi dernier, Joseph Antoine Bell, vous y étiez, Bénin-Cameroun, donc 0-0. Là encore, les Béninois qui étaient venus, qui ont récupéré un peu ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire ce point du match nul. Voilà, ça fait un premier tour assez solide de la part des Béninois, même s'il n'y a pas cette première victoire. Joseph Antoine Bell, vous êtes plutôt d'accord avec ça?
Oui, je pense que vu du côté béninois, c'est plutôt un bon parcours. Hein, il faut pas leur demander ce qui ne correspond pas à leurs moyens. Et donc, oui, finalement, ils ont obtenu presque à chaque fois ce qu'ils voulaient. Et donc, aujourd'hui, ça va les encourager à recommencer la même chose. Contre le Ghana, je suis sûr que les Béninois n'espéraient pas autre chose qu'un nul. Et je ne suis même pas sûr qu'ils envisageaient un nul avec autant de buts. Mais ils ont montré ce jour-là qu'ils sont capables de s'adapter, c'est-à-dire qu'au moment où ils sont menés 2-1 et que le Ghana a un joueur de moins, ils ne continuent pas à s'estimer historiquement inférieur au Ghana. Non, le match du jour, c'est que le Ghana a 10 joueurs et il n'y a pas de raison qu'un Ghana à 10 nous batte, et ils ont tout fait, ils ont pris le contrôle du match et ça s'est avéré payant. Ils ont démontré qu'ils avaient cette faculté d'adaptation. Contre la Guinée-Bissau,
C'est ça la grosse déception.
C'est là la grosse déception, parce que après le premier match, on s'était dit le Bénin c'est quelque chose. Et puis je crois qu'entre égaux, ils n'ont pas osé. C'était un match entre des semblables. Et là, ils n'ont pas trop su quoi faire. Ils n'étaient pas certains de dominer la Guinée-Bissau et s'exposer à des contres. Et ils n'étaient pas non plus dans leur assiette en ne faisant que défendre. Ça donnait ce match-là. Puis contre le Cameroun, ils se sont retrouvés à nouveau dans un match où ils ne sont pas favoris. Et là, ils ont adopté une tactique d'une équipe qui n'est pas favori du match.
Ils sont plus à l'aise.
Voilà, ils sont plus à l'aise. Ils se sont mis dans leur camp. Ils ont attendu les Camerounais qui n'ont jamais pu finalement les battre.
Alors, ce qui change quand même par rapport, pour le Bénin, par rapport au match précédent, c'est, Cédric, l'absence de Steve Mounier.
Oui, c'est un coup dur pour le Bénin. Steve Mounier, son atout offensif majeur, le meilleur buteur de cette sélection, Steve Mounier, deux cartons jaunes, notamment donc le dernier face au Cameroun. Il ne sera pas là, Steve Mounier, il sera suspendu. Donc le Bénin va devoir marquer des buts sans lui. On a vu qu'il a pu le faire grâce à Michael Poté par exemple, sauf que Steve Mounier lui avait fait une passe décisive par exemple.
C'est ça.
Voilà,
Et là Michael Poté va se retrouver seul en pointe.
Alors il sera accompagné bien sûr, mais il n'y aura pas effectivement Steve Mounier et son jeu de tête qui est très précieux pour ces écureuils. Les Béninois fonctionnent beaucoup avec lui, donc voilà, il faudra faire sans lui ce soir.
Et on l'a vu en conférence de presse hier, Michael Poté, écoutez ce qu'il dit de cette configuration inédite dans cette CAN avec l'absence de son comparse de l'attaque des écureuils, Steve Mounier. On écoute Michael Poté.
Steve, c'est un élément très important pour nous, il va beaucoup nous manquer. Maintenant voilà, on a montré qu'on a un bel effectif. Plus le match a d'enjeux, plus j'apprécie. Donc aujourd'hui, je suis très content d'être là où je suis. Et ce que je peux vous garantir, c'est que on est vraiment prêt. Vous pouvez même pas imaginer. Je sais pas s'il y a un mot pour exprimer ce qu'on ressent, l'envie qu'on a. Donc il faudra essayer de bien canaliser cette envie. Mais où on est là, c'est pour nous, c'est historique. C'est voilà. Mais on n'est pas des rêveurs, comme on dit. On n'est pas des gens à se dire oh là là, qu'est-ce qu'on fait ici? Non, pas du tout. On n'a pas volé notre place. Et voilà,
La garantie que je peux vous donner aujourd'hui, c'est ça. C'est que on va faire bonne figure, Chama.
Extrêmement déterminé, Michael Poté. Alors que les deux équipes sont en train de pénétrer sur la pelouse du Al Salam Stadium, beaucoup de choses penchent contre le destin du Bénin, contre la cause béninoise. 24 heures de récupération en moins, puisqu'il n'y a que 3 jours qu'ils ont joué contre le Cameroun, et le Maroc, lui, a eu un jour de plus. Déménagement entre Ismaïlia et le Caire, alors que le Maroc est chez lui ici. Il a joué ses 3 matchs d'ailleurs dans ce stade. Il a tous ses repères ici. Et puis, bien entendu, la stature des deux équipes. Un Maroc mondialiste l'année dernière, Coupe du Monde, alors que le Bénin revient en Coupe d'Afrique, simplement pour la première fois depuis 9 ans. Pas mal de raisons de voir dans cette affiche une affiche déséquilibrée. On va écouter quand même l'espoir, l'ambition de l'exploit que porte en lui Jordan Adeoti, celle d'aller chercher, pourquoi pas, une première victoire dans ces conditions difficiles à la Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais, on l'espère contre le Maroc, ça sera compliqué, mais on va tout faire pour. En tout cas, nous, on y croit, hein, on croit en nous. Pas beaucoup de personnes croient en nous, on le sait, mais nous, on croit en nous, on sait qu'on a cette solidarité. Même si on fait pas tout bien, on est capable d'avoir de bons résultats.
Vous êtes solide défensivement. Faut juste un peu de réussite en attaque.
Plus d'application, parce que c'est vrai que nous, au milieu, on perd souvent trop de ballons. Moi, le premier, c'est vrai que c'est au moment où on a le ballon, on réfléchit à ce qu'on doit faire. Donc, mieux s'appliquer sur nos relances. Mais si on garde cette solidité déjà, par contre, ça sera déjà une bonne chose. Ouais.
Et vous revenez ici au stade Al Salam pour les dernières notes de l'hymne du Maroc. Le Maroc qui a fait un premier tour sans faute, en tout cas mathématiquement. Victoire contre la Namibie 1-0, in extremis, contre son camp, but contre son camp à la 89e. Victoire contre la Côte d'Ivoire 1-0, c'est la perte de ce premier tour pour les Lions de l'Atlas. Et puis courte victoire encore contre l'Afrique du Sud 1-0, 3 matchs, 9 points. Écoutez ce qu'en dit le milieu de terrain, l'un des meilleurs, tout meilleurs Marocains sur ce premier tour, Bark Boussoufa.
Les Marocains ne sont jamais gagnés 3 sur 3. Donc c'est la première fois pour nous tous. Derrière quand on a fait 2017, c'était un peu plus difficile parce qu'on a perdu le premier match. Là, c'était pas facile non plus parce que on était beaucoup critiqué après le premier match. Et je crois que c'est correct parce qu'on n'était pas top. Mais l'essentiel, c'est de gagner ton premier match. Et puis tu vois que tu rentres dans le tournoi et tu fais un bon deuxième match et un bon troisième match. On a commencé bien, mais il n'y a rien qui finit. Et il y a une nation, il y a un peuple derrière nous. Depuis 13 ans, on est ensemble. On a encore un match très important pour jouer. On essaie tout de faire pour gagner ce match.
Bark Boussoufa, le Marocain. On va retourner dans quelques instants pour le coup d'envoi de la rencontre Maroc-Bénin au stade Al Salam. Vous entendez les notes d'Aube Nouvelle, l'hymne béninois. Et on retrouve dans une minute nos envoyés spéciaux.
RFI, la sélection du mois.
Événement. Fait pétiller la planète foot avec les boissons Planète. Présente dans plus de 30 pays à travers le monde, Planète, c'est un goût fruité, des saveurs incomparables et des bulles pour un effet rafraîchissant instantané. Planète, c'est l'équipe gagnante. Savourez un monde de foot avec les boissons Planète, partenaire de vos plus gros instants de foot en famille ou entre amis. Planète, un monde de saveurs.
Avec Bank of Africa, FPN Boys et Blé en Boulet. BOA Express, le service de transfert d'argent de Banque of Africa est sans doute le moins cher du marché. Avec BOA Express de Banque of Africa, envoyer de l'argent n'a jamais été plus facile.
Soyons tous top modèle, c'est pas grave si tu dis d'ASS ou du triplexel. Penalzheimer, si tu vois ton médecin avec ou sans silicone, on aimera tes seins. Allez, viens.
Force d'un groupe,